Bonjour à tous. Ce matin, je vous propose une méditation autour de la vie de Joseph, que nous pourrons découvrir par la lecture des derniers chapitres du livre de la Genèse. Et pour commencer, pour situer le contexte familial, nous lirons Genèse 29, à partir du verset 20 jusqu'au chapitre 30, verset 24. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. » Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel dit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui enfantai 3 fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Elle dit, « Voici, ma servante Bila, va vers elle qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur !» Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, « Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. » Et elle l'appela du nom d'Asser. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi des mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela du nom d'Issacar. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don, cette fois mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils, et elle l'appela du nom de Zabulon. » Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Dieu a enlevé mon opprobre, et elle lui donna le nom de Joseph en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Lorsque Rachel lui enfantait Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. » Un peu plus loin, au chapitre 35, les versets 16 à 19. Ils partirent, donc Jacob et toute sa famille, ils partirent de Bethel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Éphrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Éphrata qui est Bethléem. L'auteur du texte ne cherche pas à cacher la polygamie de Jacob. Le texte ne cache pas les rivalités entre les deux sœurs Léa et Rachel. Nous découvrons également la souffrance d'une épouse confrontée à l'infertilité. Nous découvrons également l'utilisation à bon escient de plantes aphrodisiaques, les fruits du mandragore, pour favoriser la procréation. La fameuse gestation pour autrui, GPA, dont on parle de temps en temps dans les médias actuels, existe déjà, puisque la servante de Rachel, Bilha, est pressentie pour mettre au monde des enfants pour Jacob. On ne peut pas affirmer que ce contexte familial est idéal aux yeux de Dieu. Mais pourtant, à chaque naissance, les uns et les autres reconnaissent que c'est Dieu qui lui seul donne la vie. Joseph a pu naître après 7 années de stérilité pour sa maman. Et aujourd'hui encore, malgré les progrès de la science et de la médecine, Dieu seul peut donner la vie. Malheureusement et tragiquement, le deuxième accouchement de Rachel tourne à la catastrophe. La maman ne survit pas aux complications. Et là encore, nous devons bien reconnaître que la fin de notre vie est également dans les mains de Dieu. Par conséquent, pour Joseph, une enfance difficile parmi ses nombreux frères et sœurs et les 3 épouses de son père. La famille idéale, un père, une mère et de nombreux enfants sages, n'est pas souvent décrite dans la Bible. C'est très souvent un peu plus compliqué. Nous lisons dans Genèse 37, les versets 1 à 36. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit « J'ai eu encore un songe. Voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi dans la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant « Que cherches-tu ? » Joseph répondit « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben entendit cela et le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Joseph avait un statut privilégié auprès de son père. Son imagination d'adolescent gâté lui montait à la tête au point de narguer ses 11 frères, la plupart plus âgés que lui. Il leur exposait ses rêves. À la maison, les frères ne pouvaient rien faire contre lui. Mais lorsqu'il arrive seul en pleine campagne, il devient une cible facile. Son rêve ne se réalisera pas si le passage à l'acte de son meurtre se concrétise. Mais Ruben, le frère aîné, dissuade les autres de commettre l'irréparable. Un concours de circonstances, mais néanmoins un enchaînement d'actes répréhensibles, amène Joseph comme esclave auprès du chef des gardes du pharaon d'Égypte. À 17 ans, Joseph se trouve donc dans un pays étranger, sans contact possible avec sa famille. On imagine facilement que c'est dans des circonstances difficiles que l'on se sent dépendant directement de l'action de Dieu. Et c'est quelquefois plus facile de ressentir sa présence dans ce genre de situation. Joseph aurait pu se révolter, se rebeller contre ce qui lui arrive. Il aurait pu chercher à fuir pour retrouver son père au pays de Canaan et dénoncer les mensonges et la violence odieuse de ses propres frères. L'histoire aurait pris alors une toute autre tournure. Mais nous lisons en Genèse 39, les versets 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, donc avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service. L'établit sur la maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Eh oui, Joseph s'est mis au travail sérieusement. L'Éternel a permis que la prospérité l'accompagne. N'oublions pas qu'il était le fils de Jacob qui avait efficacement fait fructifier les richesses de son beau-père Laban. L'idée à retenir de cette partie de la vie de Joseph, c'est que Dieu peut accorder sa bénédiction et la prospérité lorsque le travail est bien fait. Alors que tout va pour le mieux pour notre ami Joseph, voilà qu'il se fait piéger par la femme de Potiphar et il se retrouve en prison. Genèse 39, les versets 20 et 23. 20 à 23. Donc c'est Potiphar, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut là en prison. Là encore, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté, et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Couché avec la femme de Potiphar, aux yeux de Joseph, était une trahison envers son maître, mais surtout aurait été un péché contre Dieu, comme il est écrit au chapitre 39, verset 9. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? En ce temps-là, les 10 commandements n'avaient pas encore été donnés, et notamment « tu ne commettras d'adultère » n'étaient pas très répandus. Pourtant, Joseph a tenu ferme. Ce qui lui importait, c'était d'obéir aux normes morales qu'impliquait l'appartenance à Dieu, quitte à perdre son statut social et sa place privilégiée auprès de Potiphar. Et le voilà en prison, où il obtient, par son comportement exemplaire, les faveurs du chef de la prison. Et à nouveau, en Genèse 39 au verset 23, on peut lire « Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait ». Son statut particulier lui permet de nouer des contacts avec deux proches du pouvoir suprême égyptien, le chef des échansons et le chef des paletiers du pharaon. Ces deux prisonniers, qui ont déplu à leur maître, sont en prison, la prison gardée par Joseph. Ils ont des songes, et ces deux prisonniers reçoivent l'explication de leurs songes par Joseph. Pour l'un, la libération dans 3 jours et la reconduction dans sa fonction auprès de Pharaon, et pour l'autre, la pendaison. Joseph a soin de plaider sa cause et pour préparer son avenir. En Genèse 40, les versets 14 et 15. Il dit à l'échanson, « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Malgré la confiance en l'Éternel et sa fonction dans sa prison, Joseph aspirait à plus de liberté et sa punition injuste lui restait en travers de la gorge. À 28 ans, exilé, loin de sa famille, emprisonné de manière injuste et oublié de son compagnon d'infortune des chansons, il doute de son avenir. Mais subitement, son séjour en prison va se terminer. Nous lisons en Genèse chapitre 41, versets 9 à 16. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi. » C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Joseph, l'esclave hébreu, se trouve en face du Pharaon d'Égypte et lui annonce que le Dieu unique donnera l'explication de son songe effrayant. Quel chemin parcouru par Joseph entre les songes de son jeune âge, où il se met en scène au premier plan, et son discours devant Pharaon, où il affirme avec conviction « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera l'explication. » Et nous lisons dans Genèse 41, les versets 25 à 36. Joseph dit à Pharaon « Ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années, c'est un seul songe. » Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il doit faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Maintenant qu'il est aux commandes, il travaille, Joseph. Il se marie avec une Égyptienne, la fille d'un prêtre païen. 2 enfants, Manassé et Éphraïm, naissent de cette union. Une belle période de la vie de Joseph. Et malgré des années de souffrance, dans un entourage païen, loin de sa famille, il garde sa foi en Dieu, le seul Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, et qui a choisi son arrière-grand-père, Abraham, pour faire alliance avec lui. Ce qui a été annoncé arrive. La sécheresse et la famine durables sur toute la région. Pas d'eau, pas de récolte, pas de quoi se nourrir jusque vers le pays de Canaan. La situation devient grave. Et on retrouve son père, Jacob, qui envoie ses fils acheter de quoi faire face à la disette en Égypte. Ni Joseph, ni ses frères, ni Jacob ne s'attendent à ces retrouvailles. Dieu seul conduit ces événements. Le plan de Dieu s'accomplit malgré les défaillances humaines. La descendance d'Abraham, le peuple d'Israël, ne devait pas mourir de faim dès la 4e génération. Le pays de Canaan, du temps de Jacob, n'était pas suffisamment propice pour y faire survivre et prospérer le peuple élu. Une migration vers l'Égypte était nécessaire. La rencontre entre Joseph et ses frères est tendue. Une première fois, il garde Siméon en otage pour être sûr d'avoir une chance de revoir son frère Benjamin qui n'était pas venu, et peut-être son père Jacob. La deuxième expédition des fils de Jacob pour s'approvisionner est toujours aussi tendue. Mais Benjamin est avec eux. En lisant ces récits, on s'aperçoit également que devant la souffrance, la solidarité familiale est plus apparente et plus nécessaire. Les frères ne jouent plus chacun pour soi, mais pour la survie du groupe. Chaque membre du clan familial est important, y compris le préféré de Jacob, le petit Benjamin, qui a pris la place de Joseph dans le cœur de son père. Et nous lisons en Genèse 45, les versets 1 à 15. C'est la rencontre de Joseph avec ses frères. Au bout d'un certain temps, on ne va pas tout lire en détail parce qu'on a déjà pas mal de lectures ce matin. Et donc c'est au moment où Joseph est reconnu par ses frères. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi. » Et ils approchèrent. Il dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz « Ainsi a parlé ton fils Joseph. » Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi et ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gozen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou, il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Dieu a conduit les événements. Joseph est devenu premier ministre en Égypte pour que la descendance d'Abraham, selon le plan de Dieu, ne périsse pas de famine au pays de Canaan. Le pays de Gozen, où la famille de Jacob a pu s'installer, était plus propice à la production agricole en ces temps de vache maigre. C'était situé dans le delta du Nil, donc une région un petit peu mieux irriguée que le désert de Palestine. C'est là que le peuple de Dieu, selon sa volonté, a pu prospérer et se multiplier. Pendant 400 années, avant que Moïse ne soit appelé par Dieu à conduire ce peuple hors d'Égypte. Le retour au pays de Canaan était annoncé depuis longtemps et devenu possible à ce moment-là. Le plan de Dieu s'accomplit lorsque le temps est venu. Nous voilà pleinement dans l'actualité. Jacob a migré en Égypte pour des raisons économiques et Pharaon a permis leur installation sur son territoire pour qu'ils puissent vivre en paix. 400 ans plus tard, les conditions de vie au quotidien, le manque de liberté et la charge de travail imposée par Pharaon de cette époque ont à nouveau provoqué une migration et jeté sur les routes du désert tout un peuple qui ne demandait qu'une chose, vivre en paix et libre de pratiquer leur religion. Pour conclure, Joseph a connu des hauts et des bas dans sa vie. Sa relation avec Dieu était néanmoins permanente et primordiale. Le contexte matériel était secondaire. À 17 ans, il se retrouve au fond d'un puits, dénué de tout pour devenir un esclave. Il séjourne plusieurs années en prison pour purger une faute qu'il n'avait pas commise, avant de se voir confier de grandes responsabilités auprès du pharaon d'Égypte dès l'âge de 30 ans. Dans sa vie, Dieu était présent dans les bons et les mauvais jours, du jour de sa naissance au jour de sa mort à 110 ans. Malgré les souffrances et les blessures provoquées par la méchanceté de ses demi-frères, le pardon et la réconciliation restent possibles, et c'est là ce que Dieu attend de nous. L'arrogance du jeune Joseph, lorsqu'il raconte ses songes à ses frères, leur était insupportable, et leur jalousie les a poussés à le vendre comme esclave. Les frères ont eu du mal à accepter le pardon et la réconciliation. Nous lirons encore dans Genèse 50, les versets 15 à 21. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dire « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Voilà le message central et constant de la parole de Dieu. Le pardon et la réconciliation des hommes et des femmes entre eux pour une vie paisible sur terre et le pardon de Dieu à ceux qui le demandent sincèrement. Une dernière idée. Lorsque nous lisons ces récits de l'Ancien Testament, nous pouvons être choqués par la violence et la cruauté des uns et des autres. En particulier dans les chapitres intercalés, le chapitre 34, où Dinah, la descendante de Léa, est enlevée et vengée par ses frères. ou le chapitre 38, l'épisode de Judas et de sa belle-fille Tamar. Ces chapitres sont intercalés dans l'histoire de Joseph et sont des exemples de cette violence et de cette cruauté qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament. Mais le message biblique est progressif. Sur le mont Sinaï, Dieu a donné à Moïse les tables de la loi. Et là, enfin, il est clair et net que tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. C'est le minimum pour des relations interhumaines paisibles. 1500 ans plus tard, Dieu a envoyé son fils Jésus pour nous enseigner à vivre selon la volonté de notre Père Céleste. Jésus a montré le chemin à suivre, l'amour du prochain, le pardon et la réconciliation, afin que les hommes de toute nation puissent vivre en paix dans un monde juste. Il nous reste encore du chemin à parcourir. Amen.